qui est chercheur à l'Institut universitaire européen de Florence et c'est l'un des rares à avoir rencontré Al-Joulani, le nouveau maître de la Syrie. 7 heures sur France Culture. Si le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Dissoudre toutes les unités rebelles dans une seule armée syrienne, c'est le défi du nouveau pouvoir en Syrie. On y reviendra dès le début de ce journal avec la rencontre à Damas de l'un des chefs rebelles chargés de cette mission.
En France, les relations entre le Premier ministre et le Président de la République inquiètent le bloc central.
Et puis c'est l'heure du verdict dans le procès des viols sur Gisèle Pellicot, procès auquel ont assisté plusieurs chercheurs. Après ce journal, Marguerite Caton, quelle question du jour ?
Corruption et trafic d'influence, comment la justice a-t-elle tranché l'affaire Sarkozy ?
Réponse à partir de 7h15. Une mosaïque ethnique et sociale qu'il va falloir unifier, c'est le grand enjeu du nouveau pouvoir syrien qui, 10 jours après la chute de Bachar al-Assad, a réussi à remotiver l'intérêt des puissances, notamment européennes, pour cette région du Proche-Orient. Des délégations françaises et britanniques se sont rendues sur place. L'ONU y appelle désormais à des élections libres et justes. Sur le terrain, le chef militaire du groupe rebelle HTS annonce, lui, la prochaine dissolution des groupes armés, à commencer par le sien, pour l'effondre au sein de la future institution militaire. Un défi considérable quand on sait qu'en Syrie, ces myriades de groupes rebelles ont parfois combattu les uns contre les autres. Nos envoyés spéciaux à Damas, Valentin Dunat et Benjamin Thiot, ont pu rencontrer un homme qui incarne cette évolution, l'un des premiers chefs rebelles à avoir combattu le régime Assad. Ahmed Taha, c'est son nom, était à la tête d'un groupe de 6500 combattants. Écoutez leur reportage.
La rencontre se fait dans un bâtiment qui était occupé il y a quelques jours encore par l'administration du régime Assad. Dans la cour, il y a des pick-up et des hommes armés de Kalachnikov. À l'intérieur, Ahmed Taha est assis au centre d'un grand canapé. Il est en costume militaire. C'est un homme imposant qui a la modestie de se présenter comme un nouveau-né.
Nous renaissons maintenant. C'est comme si j'avais 10 jours d'existence.
Par cette phrase, il signifie qu'il a enterré l'âge de guerre. Cet homme a pourtant survécu à plusieurs tentatives d'assassinat qui ont coûté la vie à son fils et à son assistant.
Nous avons déjà dissous le groupe. Je suis un ancien chef de groupe. Mon groupe était avant l'armée de la nation. Et oui, il y avait des problèmes et des combats entre mon groupe et l'armée de l'islam. Mais nous avons aujourd'hui résolu tous ces problèmes et nous sommes unis sous un seul et même nom, l'armée syrienne.
Une phrase loin d'être anodine pour cet homme qui a également été détenu 3 ans par ce groupe rival. C'est un combattant, un chef qui veut que son pays avance.
Bien sûr, nous avions différentes façons de voir les choses, mais nous avons tous un point commun. On estime que la Syrie est à nous, qu'il doit y avoir des changements en Syrie et que le régime devait tomber.
Ahmed Taha estime qu'il faudra quelques mois pour installer cette armée, fruit d'un assemblage encore impensable il y a quelques mois.
Valentin Dunat. Et puis c'est un geste fort de la part d'un voisin dans la région. La Jordanie a envoyé un convoi humanitaire pour soutenir les Syriens, marquant par ce geste un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Reportage au point de frontière syro-jordanien de Jaber de notre correspondant Mohamed Erami.
Composé de 10 camions, il transporte 200 tonnes de nourriture et de fournitures essentielles. Ce convoi a été financé par une collecte organisée dans le pays, ainsi que par des fonds de la monarchie hachémite. D'autres envois sont déjà prévus. On écoute un responsable logistique qui préfère garder l'anonymat.
Nous avons veillé à ce que l'aide soit adaptée aux conditions des familles syriennes affectées, d'autant que des milliers de foyers souffrent de conditions de vie très difficiles à cause des conflits militaires et politiques. Les aides seront distribuées aux familles syriennes les plus pauvres et nécessiteuses dans les zones qui étaient auparavant hors du contrôle du régime syrien.
La solidarité jordanienne s'est organisée par une collecte anonyme lancée dès le départ de Bachar al-Assad. Les dons affluait pour soutenir la Syrie en crise. On retrouve ce responsable logistique.
Nous avons collecté des dons en argent et nous les avons convertis en produits alimentaires. Nous préparons actuellement un nouveau convoi qui sera plus grand que le premier et qui comprendra également des médicaments et du matériel médical.
La Jordanie cherche aussi à renforcer ses relations avec le nouveau régime syrien. La Syrie reste un axe économique stratégique pour Amman, facilitant les exportations vers le Liban, la Turquie et l'Europe.
En Argentine, un peu plus d'un an après l'accession à la présidence de l'ultra-libéral d'extrême droite, Javier Milei, la situation économique a évolué sur le papier, selon l'Institut argentin des statistiques. Au troisième trimestre, le PIB a augmenté de 3,9%. Le président argentin annonce même qu'en 2025, la récession ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Optimisme non partagé par les Argentins les plus précaires, dont le nombre a fortement augmenté. Les fonctionnaires licenciés par dizaines de milliers ou les retraités qui ont vu leur pension drastiquement baisser. Autre pays d'Amérique du Sud où la situation économique est catastrophique depuis plusieurs années, le Venezuela, d'où sont partis, selon les derniers chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 8 millions de personnes. Des départs qui se sont faits massivement vers le Pérou, où ils sont plus d'un million et demi à avoir trouvé refuge. Et ils tentent, ces réfugiés vénézuéliens, depuis Lima notamment, de venir en aide à leurs compatriotes restés au pays. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Martin Chabal.
Au dernier étage d'un immeuble d'un quartier huppé de Lima, Nourish Morin, vénézuélienne arrivée il y a 6 ans au Pérou, aide les réfugiés dans leur démarche administrative à travers son association.
On aide à régulariser des gens qui sont arrivés depuis 6 ans au Pérou et ce n'est que maintenant que certains réalisent à quel point ces démarches peuvent leur faciliter la vie.
C'est le cas de Maria Andrinas, arrivée en 2018 à Lima, qui veut faire valider son diplôme d'éducatrice pour jeunes enfants.
J'ai commencé ici avec des petits boulots informels. J'ai d'abord été serveuse, puis aide cuisinière, aide à domicile aussi. Mais j'espère que je vais avoir enfin l'opportunité d'être professeur.
Mais la situation se dégrade selon Nourish. La pandémie de Covid-19 a entraîné tout un tas de conséquences sur l'isolement des réfugiés, la santé et la santé mentale en particulier. Et les crises politiques successives au Pérou n'arrangent rien.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est de pire en pire avec l'instabilité politique du Pérou. Toutes les demandes de statut de réfugié sont gelées. Donc aujourd'hui, les gens entrent de manière illégale sur le territoire, ce qui complique l'accès aux services, à la citoyenneté et à la sécurité.
Une situation qui se sent bien à la tête de l'État péruvien. Dina Boluarte, la présidente, très impopulaire depuis que le taux de criminalité augmente dans le pays, n'a pas hésité à mettre la faute sur les réfugiés vénézuéliens qu'elle espère, je cite, « mettre dehors ».
Martin Chabal.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. On passe à l'actualité en France. C'est aujourd'hui l'heure du verdict pour les 51 accusés au procès des viols dits de Mazan.
Oui, un procès déjà qualifié d'historique. Les audiences ont été suivies par plusieurs intellectuels, juristes et chercheurs en sciences sociales. Preuve de la répercussion de cette affaire, inédite par son ampleur, mais tristement symptomatique d'une forme de culture du viol banalisée. On attend ce matin, vers 9h30, le procès prononcer des peines. Et à Avignon, où se sont tenues les audiences, une équipe d'anthropologues du CNRS, rattachée au centre Norbert Elias de Marseille, étudie leur impact sur les habitants et habitantes qui vivent depuis le 2 septembre au rythme de ce procès. Julie Paco.
C'est un exercice inédit pour ces chercheuses en anthropologie, plutôt habituées au temps long et au travail solitaire. Une démarche collective menée depuis 3 semaines à Avignon pour rendre compte des répercussions de ce procès sur la population. Riwan Anguez est doctorante en anthropologie.
Notre idée, c'est d'analyser si le procès fait ou pas événement, aussi bien dans les vies professionnelles, les vies familiales, la vie intime. Donc on a pris Avignon autour du tribunal comme une caisse de résonance, un peu un laboratoire social. Ce qui nous a motivés, c'était d'offrir d'autres outils d'analyse en tant que chercheuse en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire sortir un peu du relais des propos bruts, mais aussi donner du sous-texte et donc expliquer pourquoi les gens réagissent de cette façon, ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas.
De façon à documenter et archiver ce que ce procès produit sur le quotidien des différents habitants de cette ville moyenne, Avignon, un microcosme où les interconnaissances sont très nombreuses et où le réflexe a souvent été de se renseigner sur la liste des accusés, poursuit Céline Lesourd, chargée de recherche au CNRS.
La question de l'interconnaissance, elle vient impacter et s'inviter dans le quotidien, notamment des jeunes femmes. C'est venu agiter les questions de confiance dans des pratiques du quotidien, dans des pratiques de jeunes filles ou des mères qui effectivement sont un peu plus regardantes sur les horaires de retour des soirées de leurs filles. Tout le monde est impacté dans sa routine. Les profs se sont dit, est-ce qu'il y aura un parent d'élève dans la liste? Donc en fait, c'était vraiment important de savoir comment on gérait cette interconnaissance.
Plus de 150 entretiens anonymes ont ainsi été réalisés dans les lieux ouverts au public, les établissements scolaires, culturels ou médicaux, les lieux de culte ou encore ceux plus intimes où se joue le rapport au corps. Un travail de terrain qui, une fois analysé, aboutira à un livre sous forme de fresque, dans le but notamment de contribuer à un changement de regard sur le viol.
À Mayotte, on attend aujourd'hui la visite d'Emmanuel Macron qui devrait constater les dégâts immenses près d'un an après un déplacement où il avait multiplié les promesses. On reviendra sur la situation sur place dans le journal de 8 heures. François Bayrou, en revanche, reste en métropole où il convie les formations politiques à un rendez-vous commun cet après-midi à 14 heures à Matignon, sans LFI ni l'ERN. Où en est-il de la formation de son gouvernement? Ses proches évoquent des échanges très avancés, je cite, avec le président sur la question, mais au-delà de l'impossible équation politique à résoudre, des difficultés plus personnelles s'ajoutent. Les deux hommes entretiendraient en effet une relation très tendue. Et Rosalie Lafarge, dans le bloc central, on se demande un peu ce que ça va donner.
On n'est pas au bout de nos peines, prédit déjà un macroniste. Si ça continue comme ça, dans deux semaines, Bayrou n'est plus là, avance un deuxième. Et l'un comme l'autre ne parle pas que des faux pas du Premier ministre. Ce qui les préoccupe, c'est bien l'affichage des tensions entre le président et le nouveau locataire de la rue de Varennes. À chaque seconde qui passe, Emmanuel Macron tente de lui faire payer son crime de lèse-majesté, son autonomination à Matignon, s'agace un élu Modem, qui a décidé de caler la réunion de crise sur Mayotte, quasiment à l'heure du conseil municipal de Pau, qui lui met des coups de pression mardi par presse interposée pour qu'il nomme son gouvernement dans la journée. Fémine de s'interroger à un proche de François Bayrou. On a bien compris qu'on allait se prendre toutes les planches pourries, grogne encore un centriste. Œil pour œil, dent pour dent, répond un soutien du chef de l'État qui le rappelle. Le Premier ministre lui-même a laissé entendre que l'agenda présidentiel pouvait être un obstacle. Et ce qui réfutait le terme pour Michel Barnier l'assure, avec François Bayrou, Emmanuel Macron est entré en cohabitation. C'est en tout cas l'histoire qu'il raconte, nuance un soutien du président. Pour lui, on est dans le jeu de rôle orchestré par le chef de l'État lui-même. Il va laisser le maire de Pau prendre ses distances, ça va lui redonner de l'air, veut-il encore croire. Et si François Bayrou réussit, Emmanuel Macron dira « j'ai réussi ». S'il échoue, Emmanuel Macron expliquera que François Bayrou a échoué après s'être roulé par terre pour être nommé.
Il va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné hier dans l'affaire Bismuth du nom d'emprunt de l'ancien président au cœur d'un autre scandale d'écoute téléphonique. Une peine validée par la Cour de cassation hier. 3 ans de prison dont un ferme pour corruption et trafic d'influence et un placement sous bracelet électronique. On y reviendra dans la question du jour. C'est un projet très contesté. Enfin, l'affaire des vitraux de 6 chapelles de Notre-Dame qui doivent être remplacées par des vitraux modernes. À l'issue d'un concours dont on a appris hier le nom des lauréats, l'artiste peintre Claire Tabouret et l'atelier Simon Marc. Ces vitraux de l'époque de Viollet-le-Duc n'avaient pourtant pas été touchés par l'incendie et la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture s'est prononcée contre leur dépose, mais c'est un souhait présidentiel que de les remplacer. Ce qui a le don d'agacer le directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art, Didier Rickner, qui appelle au maintien des grisailles, c'est le nom de ces vitraux de Viollet-le-Duc, et qui a lancé une pétition, écoutez-le.
C'est juste la question de ne pas vandaliser des vitraux de Viollet-le-Duc qui existent et les enlever alors qu'ils font partie de la cathédrale. Ils sont en bon état, n'ont pas été abîmés par l'incendie. On peut économiser 3 à 4 millions d'euros parce qu'on ne doit pas faire cela. Le président de la République, évidemment, était en train d'essayer de passer en force, mais il y a heureusement encore, j'espère, des moyens de droit qui peuvent le faire reculer. On veut conserver les vitraux de Viollet-le-Duc qui sont classés monuments historiques. Maintenant que le lauréat est désigné, la pétition va se poursuivre, va augmenter pour s'opposer à ce projet qui, pour le moment, n'a pas d'existence légale. Il n'y a aucune demande de projet. La cathédrale est protégée et nous irons jusqu'au bout, aussi bien sur le plan de la pression de l'opinion publique que sur le plan judiciaire où Sites et Monuments, l'association Sites et Monuments, va aller en justice pour s'opposer à cette décision qui est un scandale patrimonial parce qu'elle ne respecte ni la charte de Venise, ni la loi sur le patrimoine, ni tout simplement l'œuvre de Viollet-le-Duc qu'on a voulu restaurer après l'incendie. Il suffit de rentrer dans la cathédrale pour voir aujourd'hui que ces vitraux sont magnifiques et qu'ils sont parfaitement adaptés non seulement aux chapelles, mais également à l'harmonie générale de l'édifice. C'est-à-dire que ce que l'incendie n'a pas détruit de Viollet-le-Duc, le président de la République veut le faire. C'est tout de même insensé.
Des propos recueillis par Benoît Grossin. Un mot rapide du temps de ce jour. Le gris domine, pluie largement répandue au nord et à l'ouest ce matin, puis au sud et à l'est cet après-midi. Comptez de 11 à 14 degrés au plus chaud. Je vous retrouve à 7h30 pour le journal de l'Écho consacré à l'économie cubaine. Pour l'heure, la suite des matins, Guillaume Erner.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Anne-Laure Choin avec dans quelques secondes la question du jour de Marguerite Caton. Corruption et trafic d'influence, comment la justice a-t-elle tranché l'affaire Sarkozy ? Et à 7h14, je voulais vous présenter à nouveau ma drag queen préférée, Étoile de Merde, mais elle a encore eu, je crois, un empêchement. Ah mais, la régie me dit qu'elle m'a laissé un message.
Bonjour mon cher Guillaume, j'aurais adoré être là, mais ma tenue est trop grosse. Bah ouais, je voulais t'en mettre plein la vue. Si tu voyais la robe, 2 km de traîne, 8 kg de tulle, elle est magnifique. Et le tout entièrement recouvert de plumes de toucan. Chut, chut. Ah ouais, par respect pour les animaux, on a cousu les toucans vivants directement dans le tulle. J'ai demandé quand même à ce qu'on leur mette des petites cagoules en tissu pour couvrir leur tête, parce que moi, les becs de toucan, mais ça me débecte, c'est hideux. Par contre, si tu voyais comme je brille, oh, un travail d'orfèvre, et puis ça sent la merde. Oh non! Oh, il y en a partout! Non, mais je leur avais dit qu'on aurait dû les coudre par le cul, ils ont salopé toute la robe. Bon, je te laisse, mon Guillaume, je vais les ramener à Vincennes.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Marguerite Caton, bonjour.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
La condamnation de Nicolas Sarkozy ce matin.
Et oui, après le tribunal correctionnel et la cour d'appel, c'est la cour de cassation qui a rendu son verdict hier et confirmé la condamnation de Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison, dont une année ferme, pour corruption et trafic d'influence. L'affaire Bismuth, qui n'était à l'origine qu'un sous-dossier de l'affaire Bettencourt et de celle du financement libyen de la campagne de 2007, a ainsi trouvé son issue après 10 années de bataille judiciaire. Et même si l'ex-président a déjà annoncé qu'il porterait l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, il est jusqu'à un hypothétique arrêt de la juridiction européenne définitivement reconnu coupable et condamné. Didier Rebut, professeur de droit pénal à l'université Paris-Panthéon-Assas, est venu en studio ce matin nous restituer l'affaire et ses débats. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être pouvez-vous commencer par nous présenter les protagonistes de l'affaire, Nicolas Sarkozy, l'avocat Thierry Herzog et puis Gilbert Azibert, au magistrat à la Cour de cassation. Tous ont été condamnés. Qu'ont-ils trafiqué ensemble ?
Alors en fait, il leur est reproché, en ce qui concerne M. Sarkozy et M. Herzog, d'avoir proposé un avantage à M. Azibert, en l'occurrence un poste à Monaco, alors qu'il n'était pas en mesure évidemment de lui affecter directement, mais d'intervenir auprès des autorités monégasques pour que M. Azibert ait ce poste, afin que M. Azibert, en contrepartie, accomplisse un acte de sa fonction, c'est-à-dire délivre un avis dans une procédure qui intéressait M. Sarkozy, la restitution de ses agendas, et également afin qu'il influence des personnes susceptibles de prendre cette décision.
Donc ils trafiquent en fait entre eux de l'influence. Nicolas Sarkozy est bien placé évidemment pour intervenir auprès de la principauté monégasque. Et M. Azibert, lui, est bien placé pour lui rendre un service dans le cadre de sa demande de remettre la main sur ses agendas présidentiels. La corruption, le trafic d'influence, c'est la même chose ?
Alors, en fait, dans la corruption, ce qui est puni, c'est le fait qu'un individu qui est un agent public, en l'occurrence ici, c'est un magistrat, accomplisse un acte de sa fonction. En l'occurrence ici, dans un acte de sa fonction, facilité par sa fonction, c'était d'obtenir en fait des informations pour M. Sarkozy relativement à la procédure qui concernait ses agendas. Et le trafic d'influence, là, l'agent public n'est pas puni pour avoir accompli un acte de sa fonction, parce que cet acte ou facilité par sa fonction, il ne peut pas l'accomplir, mais il est puni pour intervenir auprès d'une autre personne publique qui, elle, peut prendre la décision en cause.
Le fait que M. Azibert n'ait pas eu le poste à Monaco, ça ne rentre pas en ligne de compte ?
Ça ne rentre pas en ligne de compte, ni au titre du trafic d'influence, ni au titre de la corruption. En fait, ces deux délits qui sont très proches, qui sont deux délits vraiment frères, punissent le fait de proposer un avantage à un agent public ou à un magistrat pour qu'il accomplisse un acte de sa fonction, peu importe que l'acte n'ait pas été accompli, peu importe même que l'influence dans le trafic d'influence n'ait pas été exercée, c'est la proposition qui est punie en tant que telle.
Au cœur de cette affaire, il y a la question des écoutes, puisque la police se rend compte de tout ce problème via des écoutes. Dans quel cadre légal ont-elles lieu ?
Alors, dans le cadre légal, eh bien, les écoutes, elles ont lieu sur autorisation, eh bien, d'un juge qui va justifier, motiver la décision des écoutes. En l'occurrence, parce qu'il s'agissait d'écouter un avocat, puisque M. Sarkozy est avocat. Donc c'est sa ligne qui était mise sur écoute. Dans cette hypothèse-là, le code de procédure pénale prévoit des garanties particulières et notamment l'information du bâtonnier. Le bâtonnier doit être informé de la mise sur écoute des avocats qui relèvent du barreau dont il est le responsable.
Mais non seulement Nicolas Sarkozy était avocat, je ne sais pas s'il va pouvoir continuer à exercer la profession, parce que Maître Herzog, dans la condamnation, on dit qu'il ne pourra plus, qu'il est déchu de ses fonctions d'avocat. Est-ce que c'est le cas pour
Alors,
Nicolas Sarkozy?
Monsieur Sarkozy n'a pas d'interdiction professionnelle dans sa condamnation.
En tout cas, lors de ses écoutes, il est avocat, c'est un fait, mais il est surtout, Thierry Herzog est aussi son avocat. Donc il est dans une relation de client à son conseil. Ça, c'est possible d'écouter?
Alors non, en principe. Le principe, c'est qu'une conversation d'un client à son avocat ne peut pas faire l'objet d'une transcription dès lors qu'elle est enregistrée, puisqu'en fait les écoutes donnent lieu à des enregistrements. Elle ne peut pas donner lieu à une transcription si elle intéresse les droits de la défense. L'exception, c'est qu'il est possible de transcrire, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation, il est possible de transcrire la conversation entre un avocat et son client si la conversation révèle des indices de participation de l'avocat à une infraction. C'est sur ce fondement-là que l'écoute entre M. Sarkozy et M. Herzog, que la conversation a été transcrite et versée à la procédure, la police ayant considéré avec le juge que la conversation enregistrée entre le président Nicolas Sarkozy et Maître Thierry Herzog révélait de la part de Maître Thierry Herzog une participation à des infractions de corruption et de trafic d'influence.
Vous voulez dire qu'il faut distinguer l'écoute elle-même et la transcription des écoutes, c'est-à-dire qu'on écoute, si on voit que ça relève du secret professionnel et des droits de la défense, on ne peut pas retranscrire. Si par contre, ça relève de la commission d'une infraction, là on peut retranscrire.
C'est la jurisprudence de la Cour de cassation.
Et est-ce que c'est celle de la Cour européenne des droits de l'homme? Parce que, alors, on ne sait pas exactement comment elle va être saisie par l'ancien président, mais a priori, toute la défense avait vraiment tourné autour de cette question des écoutes. C'est peut-être ça qu'ils vont aussi porter devant la juridiction européenne. Quelle est la jurisprudence en la matière?
Alors, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle a été fixée en 2016 par un arrêt du 16 juin 2016, d'ailleurs, auquel la défense de M. Sarkozy fait référence. Elle admet qu'une conversation entre un client et son avocat puisse faire l'objet d'un enregistrement, dès lors que, eh bien, cette conversation révèle la participation de l'avocat à une infraction. Simplement, Monsieur Sarkozy, Monsieur le Président Sarkozy, plus particulièrement son défenseur, Maître Patrice Spinosi, considère qu'il y a une condition supplémentaire dans cette décision qui fait, selon laquelle on ne pourrait pas enregistrer la conversation, en tout cas on ne pourrait pas la transcrire. Non seulement il y aurait une deuxième condition qui s'ajouterait à l'indice de participation de l'avocat à l'infraction, il ne faudrait pas que la conversation puisse être utilisée contre le client. Et ce qu'ils disent, eux, c'est qu'en l'occurrence, peut-être que la conversation révèle une participation de Maître Thierry Herzog à l'infraction, mais qu'elle est utilisée contre le client. En revanche, Nicolas Sarkozy, c'est pour ça qu'il considère, il soutient que qu'en l'occurrence, la transcription n'était pas possible au regard de la Cour européenne. C'est à elle qu'il appartiendra de trancher cela, parce que l'arrêt de 2016 n'est pas... on peut l'interpréter de cette façon, mais on peut aussi l'interpréter autrement, dans le sens qu'a fait la Cour de cassation aujourd'hui.
Mais en attendant, dans tous les cas, la sanction va s'appliquer. Il faut dire un dernier mot, Didier Rubu, de la condamnation. On a 3 ans de prison, un enferme dedans, un enferme qui, en fait, on est écroué, mais on n'est pas détenu. Nicolas Sarkozy n'ira pas en prison, il aura un bracelet électronique pendant 1 an, et à cela s'ajoute une peine d'inéligibilité, et aussi n'aura pas le droit de vote, c'est cela?
Oui, parce que dans la peine, en fait, c'est une peine d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, qui comprend plusieurs sous-peines, l'inéligibilité et le droit de vote, et qui là est automatique, et dès lors qu'elle a des condamnations est devenue définitive et va durer 3 ans, c'est-à-dire que le président Nicolas Sarkozy se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité de voter, dans l'interdiction de voter, dès lors qu'une élection aurait lieu.
Un dernier mot, vraiment très brièvement, Didier Rebu, aménager sa peine, avoir un bracelet électronique, c'est de droit, c'est normal, on est dans un cadre...
Oui, tout à fait, normal. Dès lors, tout à fait, compte tenu de la peine qui est prononcée contre lui.
Très bien, merci beaucoup Didier Rebu, et je vous rends la parole Guillaume Herner pour la
merci
suite des matins.
Merci Marguerite Caton.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
Les Échos d'ailleurs nous emmènent à Londres avec l'expert européen de Chatham House, Sébastien Maillard. Il parle des frises du Parthénon.
Courez au British Museum admirer les frises du Parthénon. elles pourraient ne pas toujours y demeurer. La Grèce réclame leur restitution. Oh, certes, depuis au moins une quarantaine d'années, mais avec une opiniâtreté intacte. Le Premier ministre grec l'a de nouveau prouvé lors d'un déplacement outre-Manche au début du mois. Depuis, la rumeur court qu'un accord serait proche. À voir. Chaque partie est convaincue de son bon droit. Les Grecs, que les Frises leur reviennent, les Anglais, qu'elles leur appartiennent. D'ailleurs, ici, on les appelle les Elgin Marbles, du nom de l'ambassadeur Lord Elgin. C'est lui qui a extrait ces bas-reliefs de l'acropole en 1801, lorsqu'il était en poste dans l'Empire ottoman auquel la Grèce appartenait. Il en avait reçu la permission du sultan. C'est du moins ce que tient à rappeler le British Museum. Mais puisqu'on n'est jamais trop prudent, le Parlement britannique a rendu en 1963 les collections du musée inaliénables. Pillage bien mal acquis, dénonce Athènes. Conservation et exposition gratuite pour tous depuis 1817, se défend Londres. Sans nous, ces frises à l'époque auraient été perdues, me résumait un diplomate britannique. Autre argument que je lis souvent, céder encouragerait des demandes de restitution sans fin. Ce serait ouvrir la boîte de Pandore pour rester dans l'imaginaire helléniste. La boîte est déjà entrouverte. Des musées universitaires du pays ont rendu des œuvres, comme des bronzes du Nigeria en 2022. Surtout, la même année, le musée de Palerme a remis à la Grèce un fragment du Parthénon. L'an dernier, le Vatican en a donné 3 autres fragments. Le gros morceau reste toutefois Londres. Athènes possède la moitié des frises et entend ici récupérer l'autre moitié. Ne pas les réunir serait comme couper la Mona Lisa en deux, argumente le chef du gouvernement Mitsotakis. Il trouve dans son homologue Keir Starmer un interlocuteur plus enclin à discuter que son prédécesseur Rishi Sunak, qui l'avait littéralement envoyé balader l'an dernier. C'est dire la sensibilité politique du sujet. En pratique, un prêt pourrait être consenti, un partenariat entre musées serait en pourparlers. Pour le moment, je peux vous assurer, les vieux marbres n'ont pas bougé d'un iota ou d'un pouce, pour rester anglais.
C'était les échos d'ailleurs de Sébastien Maillard depuis Londres. 8h26, le reportage de la rédaction. Ce matin, direction Nantes, en Pays de Loire, où un budget très controversé s'apprête à être voté au Conseil régional. La présidente de région, Christelle Morançais, a annoncé des coupes budgétaires de 100 millions d'euros dans les dépenses de fonctionnement. Un reportage signé Laura Dulieu.
Ils sont quelques centaines ce matin devant l'hôtel de région à Nantes, en colère contre la suppression de la subvention régionale pour les missions locales. Benoît Drapeau est le directeur de l'association régionale des missions locales.
3 millions, ça couvre à peu près 60 équivalents temps plein. Les missions locales en Pays de la Loire, c'est plus de 285 points d'accueil et donc les jeunes doivent pouvoir continuer à nous rencontrer.
Inquiétude partagée par les conseillers de l'ATEDEC, non loin de là, l'ATEDEC qui réunit la mission locale de Nantes, Métropole et la Maison pour l'Emploi. 9000 jeunes en décrochage ils sont suivis chaque année. Sophie Etirondeau est responsable des territoires à la TEDEC.
On accompagne de plus en plus de jeunes. On reçoit sur l'ensemble de nos sites et de nos territoires de plus en plus de publics. Et on va avoir de moins en moins de personnes pour les accueillir.
Les missions locales travaillent avec de nombreux partenaires, également très touchés par ces coupes budgétaires. Parmi eux, le planning familial. Bérangère Tessé est la directrice de l'antenne de Loire-Atlantique.
On a une quarantaine d'actions qui s'arrêtent l'année prochaine. L'expression « mieux vaut prévenir que guérir », pour moi, elle prend tout son sens. L'impact, il va être 10 fois pire. C'est-à-dire qu'on fait des économies court-termistes et populistes, mais on envoie quel signal ? Effectivement, on va aller moins sur le territoire, on va mutualiser, aller une fois, on va faire 5 animations au même endroit parce que ça va nous éviter des déplacements, parce que voilà. Mais c'est sûr que les premières victimes de ces décisions qui sont indignes, ce sont les bénéficiaires, en fait, de nos actions.
Autre secteur particulièrement touché par ces coupes, la culture, très mobilisée depuis les annonces, et les acteurs culturels dénoncent une véritable saignée. Catherine Blondeau est directrice du théâtre Le Grand T, elle défend le principe de la subvention au secteur.
Une partie des activités qu'on développe n'ont pas de caractère lucratif. Oui, quand on vend des billets pour un spectacle, on a des recettes. Mais quand on développe des dispositifs d'éducation artistique et culturelle pour 20 000 élèves chaque année, avec évidemment des prix d'accès au spectacle très réduits, dans la mesure où on considère que ça fait partie de l'éducation d'un jeune d'être sensibilisé, disons, à la pratique artistique. Alors, si du jour au lendemain, on considère que c'est plus des activités de service public, faut nous prévenir.
Catherine Blondeau craint une fragilisation du maillage territorial, crainte partagée par l'association Rupture, qui accompagne les entreprises dans leur transition écologique. Sa coprésidente Delphine Barbeau souligne l'importance du partenariat avec les collectivités.
Les transitions pourront se faire que si les collectivités locales travaillent avec les entreprises, avec les écoles, etc. Enfin, faut qu'on ait tout un écosystème global. Et s'il y a déjà des collectivités qui sortent un peu de cet écosystème, c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas un signe d'encouragement.
Des coupes budgétaires douloureuses, donc, tant sur le fond que sur la forme. Un coup de fil et un courrier laconique pour beaucoup de partenaires avant même le vote du budget. Comme l'opposition, la conseillère écologiste Elsa Richard dénonce une méthode brutale à l'encontre des principes démocratiques.
Alors qu'on s'apprêtait à débattre sur des orientations budgétaires qui nous ont été transmises, Christelle Morançais a annoncé 100 millions d'euros d'économies dans le fonctionnement qui n'étaient pas inscrits dans les rapports d'orientation budgétaire que nous, on avait sous les yeux. Donc officiellement, en tant qu'élu, en tant que conseiller, conseillère régionale, nous n'avons pas pu débattre sur une base claire et factuelle des économies qu'elle proposait.
En face, la majorité assume et défend le cap. Alexandre Thébault, le conseiller régional délégué à la culture et au patrimoine, prône la rigueur budgétaire.
Dans une période de contraintes budgétaires telle qu'on la connaît, on ne peut plus être au rendez-vous de ce que l'on faisait au préalable. Les choix que nous posons aujourd'hui n'invalident pas la pertinence et l'historicité du partenariat que l'on avait à l'époque. Mais il n'y a plus d'argent.
Et le CESER, le Conseil économique, social et environnemental, dénonce de son côté un climat anxiogène suscité par une rupture de l'écoute, de la concertation et du dialogue. Il s'inquiète de répercussions sur l'attractivité du territoire.
Merci beaucoup Laura Dulieu pour votre reportage de la rédaction. On vous retrouve dans quelques minutes pour la revue de presse internationale. Et puis on va parler dans une dizaine de minutes de la Syrie, les nouveaux équilibres régionaux. Nous serons en compagnie de Sylvie Kaufmann, éditorialiste au Monde, et de Patrick Henny, qui est chercheur et qui a rencontré Al-Joulani. Il sera d'ailleurs en duplex de Syrie. 7h30 sur France Culture. C'est votre journal de l'écho, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce matin dans le décryptage écho, on s'intéresse à l'économie cubaine à l'occasion de l'examen des comptes du pays par le Parlement cubain cette semaine. Des comptes qui ne sont pas bons. L'île sous régime communiste connaît sa pire crise économique depuis l'effondrement du bloc soviétique dans les années 90. Crise qui se concrétise par des pénuries, des coupures d'électricité dans un contexte qui est toujours celui du blocus américain. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour Anne-Laure.
C'est vous qui signez ce matin le décryptage. Après s'être déclaré en économie de guerre l'été dernier, le gouvernement cubain a fait plusieurs annonces depuis pour tenter de redresser une économie, Camille, à bout de souffle.
Financièrement, faute de devise, le pays vit pratiquement au jour le jour, a reconnu le président Miguel Díaz-Canel. L'économie cubaine repose surtout sur l'exportation des fameux médecins cubains et sur le tourisme. Presque 2 millions de visiteurs en 2024, moins que ce qu'avait prévu le gouvernement, qui veut donc relancer ce secteur, mais aussi la production agricole et surtout le système électrique. À Cuba, les coupures de courant sont récurrentes, mais il y a récemment eu plusieurs pannes générales dans tout le pays. Impossible de conserver les aliments, il faut donc multiplier le temps passé à faire la queue alors que les pénuries persistent. Blandine Destremo, directrice de recherche au CNRS, revenue de Cuba il y a 2 semaines.
Pour produire des choses, il faut que les gens soient en état de produire et les gens passent leur temps à courir après. La nourriture, l'électricité, c'est une obsession. En fait, les gens me disent qu'ils n'ont plus le temps de travailler. L'économie s'enraye aussi du fait des pénuries de personnel.
Alors que depuis 2022, plus d'un million de personnes ont quitté le pays, selon les chiffres officiels, soit un habitant sur 10. Autre problème, l'inflation, entre 25 et 30% l'an dernier, notamment provoquée par la réforme monétaire de 2021, qui a mis fin au peso convertible aligné sur le dollar. Le peso cubain, lui, a été considérablement dévalué.
Et puis le secteur privé cubain est lui aussi pointé du doigt, Camille.
Des entreprises autorisées depuis 3 ans à importer puis à revendre notamment de la nourriture, mais accusées aujourd'hui de ne pas jouer le jeu. Blandine Destremo.
Ces entreprises-là, elles font une marge réduite parce qu'elles achètent sur un marché où il y a déjà eu plusieurs intermédiaires, notamment les intermédiaires aux importations. Mais elles sont accusées de monter trop les prix, de profiter du malheur des gens, de ne pas mettre leur argent à la banque. Mais il y a une telle insécurité, et pas seulement sur les devises, que tout ce qu'on peut faire en dehors du système bancaire, on le fait.
Le gouvernement a donc décidé de serrer la vis au début début du mois avec plusieurs mesures visant à contrôler davantage ce secteur privé.
La reprise en main, elle vise à ce que l'État puisse accaparer des sources de revenus ou de bénéfices ou de profits. Dans une trajectoire d'entrepreneurs, ils ont vraiment le sentiment que l'État est en concurrence avec eux, que dès qu'il y a des sources possibles de profits, clac, l'État édicte une loi et réinstaure une forme de monopole.
L'économie cubaine, qui est toujours sous le coup du blocus américain, hasard du calendrier ou pas, cette semaine marquait aussi les 10 ans du dégel opéré par Barack Obama entre les deux pays. Un rapprochement suspendu par Donald Trump qui avait rétabli contre Cuba plusieurs sanctions économiques en 2020. À l'occasion des 10 ans de ce dégel mardi, la Havane a néanmoins assuré être disposée à dialoguer avec Washington tout en mettant en garde le républicain de retour à la Maison-Blanche. Dans 4 ans, l'administration Trump sera terminée, mais Cuba, révolutionnaire et socialiste, toujours là, fermez les guillemets. À voir si la crise économique, elle aussi, sera toujours aussi profonde.
Camille Marigot, merci. On apprend ce matin justement que Cuba va mettre en place un taux de change flottant du peso pour réduire l'écart entre le cours officiel, 1 dollar pour 120 pesos, et celui du marché parallèle, 1 dollar pour 320 pesos. On réécoute en tout cas votre décryptage éco à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture. On passe à l'actu économique en bref. Des milliers de salariés du site Amazon.com vont entamer une grève ce matin aux États-Unis pour demander des contrats qui garantissent de meilleurs salaires et conditions de travail. Un mouvement spontané à l'annonce par des syndicats que la direction d'Amazon ne prendrait pas part à des négociations sur le sujet. Le syndicat Teamsters, en l'occurrence, qui dit représenter environ 10 000 employés d'Amazon. La grève pourrait perturber le groupe à l'approche de Noël. Donald Trump, lui, dit s'opposer à un accord budgétaire négocié au Congrès américain entre républicains et démocrates, ce qui laisse planer le spectre d'une paralysie de l'État fédéral, le shutdown. Un accord de budget qui comprend notamment plus de 100 milliards de dollars d'aide contre les catastrophes naturelles ou 10 milliards de dollars d'aide aux agriculteurs américains. Elon Musk s'y oppose également, l'aura du lieu, il reviendra dans sa revue de presse internationale dans une minute. Un chiffre d'affaires record pour la Société du Canal de Panama, près de 5 milliards d'euros cette année, en dépit de la sécheresse, car contrairement au canal de Suez, le canal de Panama fonctionne avec de l'eau douce provenant de deux lacs artificiels dont le niveau a considérablement baissé en raison du manque de pluie, ce qui a fait chuter le nombre de passages quotidiens de navires de 38 à 22. Enfin, la situation financière des collectivités guyanes Antilles s'améliore. C'est ce que note la Chambre régionale des comptes qui pointe qu'entre 2017 et 2023, les Antilles, Guyane et Martinique et Guadeloupe ont connu une amélioration donc de leur situation financière, principalement grâce à l'augmentation de l'octroi de mer, cette taxe sur les biens importés, et l'augmentation aussi des dotations et participations de l'État. La Chambre note également un accroissement des recrutements d'agents publics à tel point qu'on se retrouve pour 1000 habitants avec entre 30 et 40% d'effectifs en plus dans les Antilles que les collectivités équivalentes de l'Hexagone, ce qui restreint la marge de manœuvre des communes.
À 8h, il y aura le journal de 8h. Et quels seront les titres, Anne-Laure ?
On verra que dans certains quartiers de Grande Terre à Mayotte, les secours alimentaires ne sont pas arrivés et les habitants faibles se sentent abandonnés. Le verdict est attendu ce matin dans le procès des viols dits de Mazan. Et puis nous irons au Ghana, où une loi homophobe vient d'être déclarée constitutionnelle.
Merci beaucoup, Anne-Laure Chouin. On file à l'étranger.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Votre revue de presse internationale, Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Aux États-Unis, Laura, Donald Trump s'oppose à l'accord budgétaire négocié au Congrès américain entre des élus démocrates et républicains. De quoi craindre encore une fois un shutdown à la date limite de vendredi soir, avec une ombre, celle d'Elon Musk qui plane derrière tout cela, ou au-dessus de tout cela plutôt.
Oui, le shutdown, on le rappelle, c'est la paralysie de l'État fédéral. Lorsque le Congrès n'arrive pas à s'entendre sur le budget, il n'y a pas que chez nous, les conséquences sont très concrètes. Fermeture des services publics fédéraux, ce qui veut dire chômage technique, gel des salaires des fonctionnaires ou encore gel de certaines aides sociales. En l'occurrence, outre-Atlantique, c'est le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui avait présenté cet accord mardi, explique le Washington Post, âprement négocié avec les démocrates et qui devait permettre de financer l'État au moins jusqu'à la mi-mars. Mais voilà, et c'est un titre du Washington Post, un shutdown semblait peu probable et puis Elon Musk est allé sur X.
Let's just be loud and clear who's in the driver's seat here. It's Elon Musk. He posted first at 4:15 a.m. Eastern Time. In fact,
disons haut et fort qui est aux manettes, lance cette présentatrice sur CNN. C'est Elon Musk. Il a commencé à poster sur X très tôt, mercredi matin, et il a posté plus de 70 fois à propos de cet accord sur le budget. Plus de 70 fois, s'étrangle la présentatrice. À peine 12 heures plus tard, Donald Trump se prononçait contre l'accord, affirmant que ce chaos n'aurait pas eu lieu avec un vrai président. Ce sera le cas dans 32 jours, ajoute-t-il. Alors, petit florilège des post d'Elon Musk sur son réseau social. Ce projet de loi ne devrait pas être adopté, a d'abord écrit le PDG de Tesla et SpaceX à 4 heures du matin.
C'est bien, il se lève tôt comme il nous, Laura.
Il se lève tôt. S'en sont suivis des dizaines de posts de plus en plus acerbes, écrit le Washington Post, décriant le projet de loi comme terrible, inadmissible, fou et j'en passe. Tout membre de la Chambre des représentants ou du Sénat qui vote pour ce projet de loi de dépenses scandaleux ne mérite pas d'être réélu dans 2 ans, écrit celui qui a été nommé par Donald Trump, rappelons-le, chef du département de l'efficacité gouvernementale, chargé donc de trouver les moyens de réduire les dépenses fédérales.
Et il s'agit là d'un exemple supplémentaire de l'influence d'Elon Musk sur Donald Trump.
Oui, dans le Washington Post, toujours, le directeur d'un think tank note l'impact incroyable d'Elon Musk, et ce, encore une fois, sans beaucoup de considération pour les faits et la vérité. Le Washington Post cite plusieurs fausses informations relayées par le milliardaire à propos du budget. Par exemple, une augmentation de salaire de 40% pour les membres du Congrès. On ne sait pas d'où vient ce chiffre, écrit le journal, qui rappelle que la loi prévoit bien une hausse de salaire, mais seulement de 3,8%, ce qui serait au passage la toute première augmentation pour les parlementaires depuis 2009. Elon Musk parle aussi de 60 milliards de dollars d'aide supplémentaire pour l'Ukraine, qui serait inclus dans cette loi de finances. Personne ne sait d'où vient ce chiffre. Aucun nouveau fonds majeur pour Kiev ne se trouve dans le texte, selon le journal. Mais le mal est fait, écrit le Washington Post, qui rappelle les millions de dollars dépensés par Elon Musk pour soutenir Donald Trump lors de sa campagne. Selon le coprésident de Public Citizen, un groupe de défense des consommateurs cité par le journal américain, un homme qui a dépensé 250 millions de dollars lors des dernières élections, qui ne cligne pas des yeux et qui peut mobiliser les électeurs républicains grâce à son réseau social, eh bien c'est un homme intimidant.
Et au Kenya, Laura, plus de 140 modérateurs de contenu Facebook diagnostiqués avec un trouble de stress post-traumatique sévère.
Il travaillait jour et nuit dans un local aux lumières éblouissantes, à la climatisation froide, aux sièges inconfortables et avec des écrans à pleine luminosité. Ils étaient étroitement surveillés sous peine d'être renvoyés en cas de baisse de performance, 1 minute seulement pour évaluer chaque élément de contenu. Un contenu qui reste pourtant profondément gravé dans leur esprit, raconte The Guardian. Et pour cause, ces modérateurs étaient confrontés à un flux d'images atroces, des meurtres, des suicides, des abus sexuels sur mineurs, du terrorisme, de la nécrophilie et j'en passe. Le journal britannique raconte l'histoire de ce procès intenté à Nairobi contre Meta, la société mère de Facebook, et Sama Source Kenya, un sous-traitant qui s'occupait de la modération de contenu pour Meta en employant des travailleurs de toute l'Afrique, 8 à 10 heures par jour, et confronté à des contenus qui pouvaient provoquer évanouissement, vomissement et même la fuite de certains modérateurs, dont beaucoup consommaient de l'alcool, des médicaments et des drogues pour tenir. Une affaire qui révèle le coût humain des réseaux sociaux, écrit le Guardian, avec la nécessité de plus en plus de modération, la plupart du temps depuis les régions les plus pauvres du monde, le tout pour protéger les utilisateurs des pires contenus publiés. En l'occurrence, précise le journal, les modérateurs du Kenya et d'autres pays africains ont été chargés de 2019 à 2023 de vérifier les messages émanant d'Afrique et dans leur propre langue, en étant payés 8 fois moins que leurs homologues américains. Près de 190 travailleurs ont déposé plaintes, notamment pour traite d'êtres humains, esclavage moderne ou licenciement abusif, avec pour l'écrasante majorité d'entre eux un diagnostic donc de troubles de stress post-traumatique, d'anxiété généralisée ou de dépression majeure. Les plaignants s'appuient sur des précédents. En 2020, par exemple, plusieurs modérateurs avaient poursuivi Facebook aux États-Unis. Ils avaient obtenu 52 millions de dollars pour 10 000 modérateurs actuels et anciens dans tout le pays.
Merci beaucoup, Laura Dulieu, pour cette revue de presse internationale. On reste à l'international dans quelques instants. On va évoquer la Syrie. Assiste-t-on aujourd'hui à une rupture non seulement dans la région, mais une rupture qui pourrait rebattre les cartes et les équilibres du monde? Nous serons en compagnie de Sylvie Kaufmann, éditorialiste au Monde, et Patrick Hennie, chercheur à l'Institut universitaire européen de Florence. 7h43 sur France Culture.
C'est l'histoire d'une sœur bénédictine, d'une femme, d'une artiste intrépide et fragile, surgie il y a 1000 ans en Allemagne et qui est devenue une légende vivante. Elle s'appelle Hildegard de Bingen, l'incarnation du génie féminin, détentrice d'une œuvre artistique et scientifique qui dépasse largement le cadre religieux. Grande traversée, Hildegard de Bingen, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
En partenariat avec le journal La Croix. France Culture présente Tituba, qui pour nous protéger? Dans un geste poétique et sororal tiré de l'œuvre de Maryse Condé, Tituba est ici invoquée comme une figure protectrice. L'exposition tisse des liens entre création plastique et littéraire à travers les œuvres de 11 artistes femmes aux trajectoires diasporiques, caribéennes et africaines. Tituba, qui pour nous protéger, jusqu'au 5 janvier 2025 au Palais de Tokyo à Paris. Un partenariat France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Depuis la prise de pouvoir d'Al-Joulani à Damas, la scène internationale attend les premières mesures après ses discours pacificateurs. Mais d'ores et déjà, eh bien, le sort de la Syrie a changé et celui de la région pourrait, et très largement également, en être modifié. Pour en parler, nous sommes en duplex avec Patrick Hennie. Bonjour.
Bonjour.
Patrick Hennie, vous êtes chercheur à l'Institut universitaire européen de Florence. La liaison n'est pas excellente parce que vous êtes, je crois, en Irak.
C'est ça.
Voilà, et donc il y a des différents bruits derrière vous, mais nous tenions à vous avoir pour avoir votre éclairage, parce que vous connaissez évidemment fort bien la région, la Syrie. Vous avez rencontré Al-Joulani, vous allez nous en parler dans quelques instants. Sylvie Kaufmann, vous êtes avec moi dans ce studio, vous êtes éditorialiste au Monde, on vous doit les aveugler comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, c'est aux éditions Stock. Sylvie Kaufmann, comment qualifier ce qui s'est déroulé en Syrie? S'agit-il d'une rupture, d'une révolution, d'un enjeu local, d'un enjeu régional, de quelque chose de plus important?
Alors, si le mot de séisme n'était pas si galvaudé, je l'utiliserais volontiers. Non, c'est un événement majeur dans la région, évidemment dans la vie des Syriens. Ça, je pense qu'on va en parler. C'est quelque chose qui a tellement souffert et dont on découvre chaque jour à quel point ce régime a été monstrueux, en fait. Mais aussi pour la région, c'est un événement majeur. Ça remet en cause toutes les relations dans la région. Il y a évidemment les gagnants, les perdants, on pourra en parler, bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a aussi une onde de choc qui affecte les équilibres géopolitiques au-delà même du Proche-Orient. La Russie, l'Europe, les États-Unis sont bien entendu concernés. Donc, c'est vraiment un événement. Et puis, la rapidité de l'effondrement de ce régime qui a surpris tout le monde, mais vraiment tout le monde, montre aussi à quel point il y a une accélération de l'histoire, d'une certaine manière, qui amène les acteurs principaux à se repositionner très très vite et pas forcément de manière définitive d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Hennie?
Alors, sur le plan géostratégique, c'est évident qu'on est sur un moment pivot. L'axe de la résistance dans lequel la Syrie était bon an mal an partie prenante a massivement souffert en termes de cohésion interne, en termes de force et en termes de capacité de contrôle dans la région.
Il faut nous rappeler, Patrick Hennie, pardon, je vous coupe comme vous êtes en duplex, il faut nous rappeler ce qu'est l'axe de la résistance.
Donc, l'axe de la résistance, si vous voulez, c'est ce groupe de pays et d'acteurs non étatiques qui tournent autour de l'Iran, qui s'est posé depuis plusieurs décennies comme étant fondamentalement fondé sur la volonté de confrontation avec Israël. Et dans cet axe de la résistance, la Syrie jouait un rôle central. C'était un des États qui était un des piliers. C'était par là où passait une partie du soutien militaire, militaire au Hezbollah. Et maintenant, l'axe de la résistance 1 a été massivement affaibli par les différentes guerres israéliennes qui ont eu lieu à Gaza, au sud du Liban, et également, on l'oublie un peu, dans le sud de la Syrie. Et maintenant, on a la fin du régime de Bachar, partie prenante de cet axe de la résistance, et un nouvel arrivant, Abu Mohammed al-Jawlani, qui va dicter de manière assez cruciale le devenir de la Syrie, non seulement en termes de politique religieuse ou non, le rapport aux minorités. On a beaucoup discuté de ça sur les médias, mais également, il va devoir définir une ligne stratégique, géostratégique, dans un contexte actuellement de vide ou d'incertitude sur quel réalignement vont marquer la Syrie de demain.
Alors, les gagnants, les perdants, justement, Sylvie Kaufmann, on a beaucoup dit que parmi les gagnants, sinon le gagnant extérieur à la Syrie, bien sûr, c'était la Turquie.
Oui, absolument. C'est en tout cas ce qui ressort en ce moment. La Turquie a investi dans le conflit syrien énormément d'énergie, de force et d'efforts depuis le début de la guerre civile, hein, en soutenant les forces rebelles. Et donc, elle ramasse maintenant les fruits de cet investissement. Elle est en première ligne maintenant pour appuyer donc cette rébellion, cette avancée des rebelles de HTS ou HTC, je ne sais pas comment vous dites ici. Enfin bref, des forces.
Je vais vous dire la vérité, je ne sais même plus. Je crois qu'on dit HTS,
l'acronyme anglais ou français. En tout cas, donc les forces de ce leader al-Jawlani, dont parlait Patrick Henny, ont été appuyés, équipés largement par la Turquie. Et donc, la Turquie, maintenant, va profiter de cet investissement. Et on l'a vu déjà, quelques jours après la chute de Damas, Ibrahim Kalin, qui est le chef du renseignement, des services de renseignement turcs, et qui est un homme très important dans l'entourage d'Erdogan, qui était un très proche d'Erdogan, est venu à Damas. Et c'était la première personnalité, le premier responsable étranger à venir à Damas sous ce nouveau régime. Donc, on voit bien que là, la Turquie a pris ses gages. On a vu aussi dans un autre registre que les actions des cimentiers turcs, parce qu'on sait que les entreprises turques sont très fortes, notamment dans le secteur du bâtiment et des infrastructures. Donc, il y a aussi toute la question de la reconstruction de ce pays dévasté qui va se poser. Et donc, la Turquie va sans doute y jouer un rôle important. Donc, on a maintenant, en effet, la Turquie qui se positionne en Syrie comme l'un des acteurs majeurs et volontiers protecteur du nouveau régime. Après, on va voir comment les relations entre ce nouveau régime et la Turquie se jouent, parce que probablement, on peut imaginer que ce nouveau leadership va essayer d'équilibrer aussi, de contrecarrer, de ne pas être dépendant que d'un seul acteur. On peut l'imaginer en tout cas.
Alors ce nouveau régime, Patrick Henny, il est incarné par un homme, al-Jawlani, que vous avez rencontré. Comment l'avez-vous rencontré? Dans quelles circonstances? Comment fait-on? Est-ce qu'il a un numéro de téléphone, ce monsieur?
Alors écoutez, je vais peut-être coupler, sans très trop dans les détails sur la rencontre, mais je vais peut-être coupler le premier rendez-vous qu'on avait avec lui, c'était il y a 5 ans, et c'était pas inintéressant, parce que Jawlani, c'est non seulement une personne qui a une visée sur la Syrie, mais également il a une perspective vague encore, je pense, mais intéressante à relever sur comment lui est-ce que voit aujourd'hui le positionnement géostratégique de la Syrie. Quand on l'a rencontré la première fois, c'était en 2019, la première chose qui lui importait, c'était de rappeler que finalement, entre son organisation et l'Occident qu'il le liste comme organisation terroriste, il y a beaucoup de points en commun.
Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque en 2019?
En 2019, il avait terminé une trajectoire d'imposition de son hégémonie sur une petite poche résistante dans le nord-ouest de la Syrie, le gouvernorat de Idlib. Et il commençait à mettre en place des institutions de gouvernement local, tout en se sentant un peu mal à l'aise dans cette idée d'être un gouverneur d'une petite poche pauvre dans le nord-ouest de la Syrie. Et lui voit les plus grands. Et je voulais juste venir 2 minutes, si vous voulez bien, sur quelle était sa vision, justement sa vision stratégique à ce moment-là. Lui disait, regardez, on est dans une situation où notre organisation, HTS, Tahrir Sham, HTC, a finalement préservé, c'est lui qui exprime sa vue, a finalement préservé un espace pour l'opposition et de ce fait-là, maintenait une certaine crédibilité aux négociations menées par la communauté internationale autour de la Syrie. Il disait ensuite, grâce à la gouvernance et aux structures administratives qu'il avait mis en place, il rappelle qu'il a réussi à juguler plus ou moins l'émigration des Syriens dans cette zone vers l'Europe. Il rappelait troisièmement qu'il a été un acteur pilier dans la guerre contre Al-Qaïda depuis plusieurs années et l'État islamique. Et il rappelait finalement qu'il y a des ennemis communs entre lui et l'Occident, avant tout l'Iran, mais il mentionnait également la Russie. Et je pense que c'est important parce que de manière assez consistante, finalement, depuis à peu près 5 ans ou un peu plus, Jolani était dans cette perspective de chercher un alignement ou au moins les ententes. Peut-être un alignement, c'est un peu trop fort. Au moins les ententes avec ceux qu'il voyait comme des alliés objectifs, c'est-à-dire la communauté internationale. Pensez à l'ONU, il voulait des listings depuis très longtemps, mais également l'Occident dans un sens un peu plus large. Donc cette perspective-là n'a pas vraiment changé. Il était très clairement dans une idée. Il faut couper les ponts avec l'axe de la résistance. Pour lui, l'Iran, c'est un ennemi, ça c'est très clair. Il s'en est jamais caché. Et ensuite, se réouvrir sur la communauté internationale, l'Occident, évidemment, la Turquie et le Qatar, mais pas seulement. Et je pense que maintenant, l'Occident l'a bien compris, finalement. Au dernier meeting de Aqaba, la conclusion était... On va, de manière très prudente, tester les nouvelles autorités à Damas. Mmh. On est prêt à leur donner une chance, à eux ensuite, de montrer une capacité de répondre aux différentes demandes et attentes de la communauté internationale, notamment en termes de gestion des populations, gestion des minorités, et de dépasser l'approche islamiste qui était la leur depuis les dernières années.
Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie Kaufmann ?
Oui, absolument. C'est-à-dire que depuis 2018, à peu près, les accords d'Astana, la Syrie avait été en fait un peu partagée entre 3 puissances qui s'étaient mises d'accord, hein, la Russie, la Turquie et l'Iran. Et là, maintenant, et qui régnait un peu sur ce qui restait de la Syrie fragmentée. Et là, maintenant, on a en effet 2 de ces 3 acteurs, la Russie et l'Iran, qui sont en position de faiblesse, qui ont été à la fois, on peut en reparler, mais enfin dans tout ce qui, toutes les conséquences du 7 octobre, des événements du 7 octobre et tout ce qui c'est cette chaîne d'événements qui s'est produite ensuite, on se retrouve maintenant dans une situation où ces 2 grands acteurs, la Russie et l'Iran, sont qui étaient les principaux soutiens du régime d'Assad, de Bachar al-Assad, sont affaiblis. Donc la Turquie, comme on l'a dit, est en position de force, mais l'Occident, en effet, les Occidentaux ont aussi intérêt à ce que les choses se passent relativement bien et surtout de manière non hostile, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de résurgence de l'État islamique et que les choses se pacifient dans la région. Donc ce qu'on voit depuis quelques jours, c'est des pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, enfin l'Italie avait déjà pris les devants, mais la Grande-Bretagne, l'Union européenne, qui envoient des diplomates, des représentants pour prendre contact avec ce nouveau pouvoir, pas avec Al-Joulani directement, mais avec ce représentant, par prudence, n'est-ce pas ? On n'y va pas tout de suite directement au plus haut niveau parce qu'on attend de voir comment évolue ce régime. Mais en tout cas, ils rouvrent leurs ambassades, au moins symboliquement, pour prendre contact et voir comment les choses se passent et essayer peut-être d'influencer dans le bon sens.
Oui, c'était d'ailleurs le sens des propos de James Jeffrey dans votre journal, Sylvie Kaufmann, Le Monde. C'est l'ancien envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie. Il disait évidemment les États-Unis doivent parler avec Al-Joulani. Et justement, à ce sujet, Patrick Hennie, est-ce qu'on a affaire à un frère musulman? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cet homme est un pragmatique? Est-ce que c'est quelqu'un qui avance le visage dissimulé? Bref. Ce sont toutes ces questions-là qui sont aujourd'hui posées.
C'est difficile de répondre. Si vous me donnez 2 minutes là-dessus...
Alors, je vous donne je 2 minutes, mais pas une seconde de plus.
Très bien. Écoutez, deux, trois clés. Joulani, on ne peut pas le catégoriser dans les catégories habituelles, frères musulmans, salafistes, El-Qaïd. Ce qu'on peut dire, un, il a... fait une vraie rupture avec Al-Qaïda en 2016. Deux, au cours des années de contrôle de sa poche, de son territoire où il était depuis 2017, il a massivement composé avec les demandes de la population et il a su également s'adapter aux contraintes de son alliance avec la Turquie. Il s'est rapproché d'une espèce d'islam populaire, un peu soufi, centriste, on va dire ça comme ça, aux normes de Idlib. Il a récupéré leur chair, ça a s'appuyé sur cette espèce de majorité silencieuse, sunnite, conservatrice, etc. Lui a permis progressivement, au cours des années, d'élaguer son viatique radical sur lequel il s'était appuyé au début. Chaque fois qu'il prenait des petites décisions, des coups tactiques d'adaptation, parfois son alliance avec la Turquie, le fait qu'il a dû respecter la trêve de 2020 entre la Turquie et la Russie. Il a dû protéger les patrouilles turco-russes qui venaient sur son territoire dans le cadre des accords d'Astana. Il a dû s'ouvrir aux minorités pour se montrer en personnage d'envergure nationale.